Vous êtes ici?
Oui.
Bonsoir à toutes et à tous, membres de Côté Club, et bienvenue dans ce studio mythique du 621 à la Maison de la Radio et de la Musique. C'est là, chaque jour, que toute la scène française se donne rendez-vous, et plus, si affinité. 22h, 23h, on remet le son avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. 100% rock'n'roll ce soir avec Kemar de No One Is Innocent et Philippe Manœuvre. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir.
No One Is Innocent, 30 ans de musique, 10e album énervé, Ennemi, c'est le titre, 11 titres de combattants, ça parle de force du désordre, d'humiliation, de caste. Bref, un album bulldozer, c'est un des titres qui en raconte bien l'énergie furieusement live. Philippe Manœuvre, vous signez Flashback Acid, retour sur votre histoire sexe, drogue, surtout, et rock'n'roll. Un parcours de dingue. Le livre s'ouvre en URSS avec le premier concert historique de Scorpion. Un livre bourré de rails, de descentes, d'hallucinations, bref, du passé, pour Philman, qui a décroché notamment à Amsterdam avec Virginie Despentes en Ange gardien. Marion ?
C'est le retour de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous avez aimé, Kemar et Philippe Manœuvre, et je vous dirai qui vous adorerait.
Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. On dirait une carte mancienne.
Oui, ça peut.
Laurent Goumard sur France Inter.
C'est vrai que c'est prétentieux, mais ça marche la plupart du temps. Philippe Manœuvre et Kemar de No One Is Innocent, j'imagine que vous vous connaissez quand même.
Ouais. Ah, bah oui, je les ai vus arriver. Moi, je suis un très ancien du rock. J'ai commencé dans le rock en 73, j'avais 18 ans. Donc Kemar, c'est la troisième génération.
Ouais, dans les années 90.
Voilà, c'est le nouveau métal au départ, hein, un mot affreux comme.
Plutôt heavy metal.
Voilà, c'est du vrai heavy metal comme on aime, avec des riffs chromés.
Et nous, on découvrait Philippe Manœuvre avec les enfants du rock.
Avec les enfants du rock,
ouais, forcément.
Cette émission mythique à la télévision, d'ailleurs,
on regardait,
vous en parlez.
Les enfants du rock en cachette, parce que parce que c'était tard.
Ça s'appelait Sex Machine, ça passait à 23h. Donc beaucoup de jeunes me disent, nous, là, on était cachés dans le couloir.
Ouais, exactement.
Debout dans le couloir, pendant que les parents regardaient, nous, on se glissait pour voir.
Et donc, on découvrait les super reportages sur Prince, sur James Brown, tout ça. Non, c'était terrible.
No One Is Innocent, 30 ans de carrière, 10 albums, des centaines de dates de festivals en France, dans le monde, une tournée hexagonale avec Motorhead, on en parlera tout à l'heure avec Marion Guilbeault, avec Guns N' Roses, le Stade de France avec AC/DC, la première partie des intrus, bon souvenir.
Des intrus.
Je crois que c'est mon inconscient.
Elle est dans les micros.
Bon souvenir.
Très bon souvenir.
C'est eux qui vous appellent.
C'est Jean-Louis Aubert, en fait, que je rencontre à Bercy pendant un de leurs concerts et qui me dit « qu'est-ce que vous faites l'année prochaine au mois de septembre ?» Et c'est à ce moment-là qu'il nous propose le stade parce que il trouve que No One, c'est un vrai groupe de rock, il y a une attitude et ils ont envie d'avoir un truc comme ça, un groupe comme nous avant de jouer. Donc il nous propose de jouer les deux soirs au Stade de France et c'était magique.
Vous aviez vu ça, vous ?
J'ai vu.
Aller voir les intrus ?
Oui. Non, franchement, oui, c'était génial. En plus, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait un orage qui menaçait et finalement, le temps était génial. Et puis, Aubert, Bertignac et Kolinka, enfin, quand ils jouent ensemble, c'était tellement sympa ces soirées, vraiment.
Deux sons qui vous concernent tout de suite. Pour l'un, c'est le début de tout. Pour l'autre, la fin de quelque chose. C'est là que tout commence pour vous, Kemar ? Ou presque ?
Pas vraiment. Moi, j'avais déjà commencé à faire de la musique.
Vous étiez déjà chanteur dans les groupes ?
Ouais, j'avais fait plusieurs groupes. J'essayais de chercher quelque chose qui puisse vraiment me donner l'étincelle. Et puis, par hasard, un soir, j'ai deux places pour aller voir Suicidal Tendencies à Élysée Montmartre. Et on est en bas des escaliers, et puis je dis à mon pote, vas-y, viens, on monte, on va boire une bière là-haut. Et en ouvrant les portes, il y avait Rage Against the Machine qui était enrôlé dans cette tournée de Suicidal Tendencies et qui faisait sa première apparition en France. Et là, c'est le choc, quoi.
Et là, vous avez compris.
Bah, c'est le choc parce que ça correspond pas vraiment à 100%, mais il y a cette fusion de la musique avec ce chant hip-hop. Moi, je le suis un peu moins hip-hop, mais en fait, il y avait vraiment une corrélation vraiment parfaite. Et pour moi, c'est une révélation. C'est-à-dire qu'on est en train d'écrire des morceaux qui correspondent un petit peu quand même à ce qu'on est en train d'entendre. Et pour moi, c'est un souvenir génial. Et j'ai rencontré quelques personnes qui étaient à ce concert. Et on se rappelle que quand même, ils sont en première partie du groupe en tête d'affiche. Et que, je sais pas, peut-être des 100, 150, 200 concerts que j'ai vus à l'Élysée Montmartre, il y a un rappel pendant 5 minutes, les gens hurlent pendant 5 minutes. Alors qu'ils sont en première partie. Et à la fin du concert, tout le monde se regarde. Et dans les regards de ces gens-là, on est en train de se dire, la révolution du rock arrive. Voilà.
Quelque chose que vous pourriez corroborer, Philippe Manœuvre.
C'est l'arrivée d'un nouveau son, hein, c'est vrai, avec un guitariste incroyable, Tom Morello, qui joue avec Bruce Springsteen, hein, quand il remplace un peu les partants, mais Tom Morello, voilà, pour nous qui aimons la guitare, c'est un type qui arrive à faire des bruits d'hélicoptère avec sa guitare quand même. Donc ça, tu te dis, waouh. Et puis derrière, il y a une section rythmique de folie. Et un chanteur charismatique, très dreadlock, très petit-fils de Bob Marley, pas content, enragé même. Donc ça monte le cran, et c'est super, quoi. C'est vraiment des groupes qui ont fait changer la musique, hein, à eux tout seuls.
Ouais, dans les années 90, je pense que sans Nirvana et sans Rage Against the Machine, je pense que le rock n'aurait pas eu un second souffle à ce moment-là.
Autre son, autre souffle pour vous, Philippe Manœuvre. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le rock dans la vie, il y a aussi Bertrand Burgala.
Voilà,
album The Sound of Music.
Ouais. Et pour moi, ce morceau, c'est un des 5 plus beaux morceaux de tous les temps. Bach, Ravel, Mozart, tout le monde confondu, je trouve ce morceau. Alors, bon, moi, je le raconte parce que...
Dans le livre, oui.
Dans le livre,
c'est un moment très particulier.
C'est un moment très particulier.
Vous êtes à Amsterdam.
Avec Virginie Despentes, on a pris des champignons, on est scotchés en haut du mur, quoi. On est là... Et je mets ce disque-là, et instantanément, le papier peint arrête de bouger, ou plutôt, il bouge désormais en vague. Et la musique nous emporte vraiment vers le cosmos, quoi. C'est quand on... Enfin, dans l'état où on était à ce moment-là. Mais même encore aujourd'hui, moi, quand vous mettez ces quelques notes, je trouve que c'est Ravel mélangé au rock. Et c'est rare, c'est parce qu'il y a une vraie ligne mélodique sublime, quoi, qui ne peut que vous amener les larmes aux yeux par moments.
Kemar et Philippe Manœuvre, on n'en est qu'au début. Et comme le dit dans une superbe tautologie Bertrand Belin avec de l'Iminianas, au début, c'était le début.
Je te garde beauté.
Après le début, la suite avec Kemar, The No One Is Innocent et Philippe Manœuvre qui sont les membres de Côté Club ce soir. Philippe Manœuvre, le retour avec Flashback Acid, qu'on peut lire comme la face B de l'autobiographie Ma Vie Manœuvre. J'adorais le titre. La face B, la face sombre, vous évoquez la dimension coke, alcool et autres dépendances pendant ce parcours de critique rock. Alors, on va parvenir sur tout ce que vous avez fait, la télévision, la radio ici à France Inter, des livres, des bios, bref, un activiste du rock. À l'origine de cette partie sombre, donc de ce récit, il y a un type qui vous croise pour une signature et qui vous dit qu'il a bien aimé Ma Vie Manœuvre.
Il a bien aimé ça, ouais.
Mais que il trouve ça très sage. Voilà, vous étiez dit, oui, vraiment auto-censuré.
Non, mais je me disais, bon, ok, j'ai 60 ans, j'ai des enfants. Quand j'ai écrit l'autre livre, je me disais, j'ai des enfants de 10 ans et 5 ans. J'ai une fille qui a 30 ans, mais quand même, est-ce que c'est le moment de jeter de la cocaïne, de tout balancer? Donc j'ai fait un truc très très cool, très très propre. Et donc, quand ce jeune homme m'interpelle devant une Fnac à Toulouse, il me dit, tiens, avec l'accent, tiens, j'ai lu votre livre, là, on vous parlait pas de drogue, mais c'est normal, aujourd'hui, on peut plus parler de rien. Et je me dis, mais il a tort, on peut encore, enfin, Théophile Gauthier a publié son Club des Hachichins en 1843, on est en 2020, ça va, quoi, non, il y a eu Hunter Thompson avec Las Vegas Parano.
Tout à fait.
Il y a une grande tradition de livres qui ne parlent que de drogue. Voilà, certains ont tiré les conclusions, d'autres racontent une aventure, d'autres, c'est souvent des dealers, des types qui ont bougé des tonnes de drogue, le fils Escobar aussi a fait un livre. Donc il y a toute cette culture de livres, et je me dis, moi, c'est obligatoire, faut y aller. Et je me rappelle que, bon, ben, j'ai passé pas mal de temps avec les Motorhead, c'est moi qui étais le journaliste sur la première tournée de Motorhead, personne ne voulait y aller. Tous les journalistes étaient aux abonnés absents, il n'y avait que moi qui étais là avec eux, c'était incroyable, mais c'était de la folie cette histoire. Bon, j'ai été là en première ligne, effectivement, j'ai vu la cocaïne.
Quand vous dites ligne, on pense à beaucoup de choses.
Voilà, j'étais en première ligne parce que j'ai vu la cocaïne s'abattre sur le rock et devenir un blizzard où tout le monde va t'arriver dans un bureau, on se faisait un rail avant de commencer à parler. Il y avait des maisons de disques, Barclay, pour ne pas la nommer, dont le logo des années 80, c'était écrit Barclay avec un grand trait rouge, comme un petit rail en travers. Enfin, j'ai vu Kevin Ayers, qui était le bassiste de Soft Machine. Alors, ils avaient fait la première partie de Hendrix pendant 6 mois de tournée en 67, donc Et il arrive et il dit « Où est le cocaïne, mes amis ?» Avec sa grosse voix bien chaude. Et là, tout, personne, on est en 95. C'est fini, tout ça, tu vois. Et là, il dit « Mais moi, pas de coco, pas de promo. » Et donc, tout le monde passe des attachés de presse, passe des coups de téléphone. Elle trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un. Elle part avec son petit scooter. Et puis, il attend. Il est là, il boit un cognac. On est là, il ne parle pas. Et d'un seul coup, l'attaché de presse revient avec le paquet. Et là, il dit, bon, allez, on se fait un rail et on y va. Et la promo commence. Voilà. C'était un peu ça, le monde du rock, quoi. C'était très, voilà, on était plongé là-dedans.
Alors, une vie de drogue et de rock, voilà l'enjeu de ce livre qui s'ouvre sur un voyage de presse et un concert hallucinant en Russie avec Scorpion. On est en 1988, Scorpion arrive en Russie à Moscou, c'est vraiment la folie. Souvenir du concert avec l'armée, c'est ça qui m'a halluciné, planqué derrière un rideau.
Oui, il y avait une espèce de salle comme un Bercy, quoi. Vous voyez cette forme ovale. Et la salle était coupée au milieu, il y avait un rideau, il y avait le groupe, il y avait le public. Et derrière le rideau, on a été jeté un œil, il y avait une division de l'armée soviétique, un bataillon rangé, tous en ordre, avec les fusils. Ils craignaient l'explosion. Le rock était interdit en Union soviétique. Si tu te faisais toper avec une cassette de Kiss, c'était le goulag direct. Il n'y avait pas du tout de négociation, c'était comme ça. Mais il y avait des milliers de cassettes qui circulaient sous le manteau. Moi, j'avais un copain comme Kemar qui était allé à Moscou en 77, il connaissait 2-3 rocks d'Elvis, il me disait c'est bizarre, j'ai chanté mon truc d'Elvis, les gens m'enregistraient avec des magnétophones, waouh, Blue Suede Shoes, tu vois, il y avait une volonté, un désir, une envie. Dès qu'on interdit quelque chose, bon, il y a une aura bizarre qui se crée autour, évidemment, et les Russes, ils voulaient du rock. Ah ça, mais ils voulaient du métal, ils voulaient surtout du métal.
Surtout, vous êtes à un moment donné dans un café, il y a justement un groupe qui joue des petites choses, qui joue d'ailleurs toujours le même morceau, et dès qu'il essaie d'entamer un morceau de rock, on leur coupe l'électricité.
Qui débranchait, qui abattait le truc, clac. Donc on dit, mais pourquoi ? Il dit, ah non, il ne faut pas que ça dégénère, c'est du rock. Donc on l'a laissé jouer un morceau de Status Quo qui s'appelle You're in the Army Now, qui est un morceau horrible. Et ils jouaient ça parce que dès qu'ils faisaient un bilalet, on leur coupait l'électricité. Donc, ils essayaient de vous faire passer un message, genre on est un groupe, on est in the Army Now. Il y a effectivement, il y avait beaucoup d'uniformes à l'époque. C'était vraiment le régime soviétique terrible, quoi. T'arrivais à l'aéroport, il n'y avait que des mecs en uniforme. Militaire, quoi. Tu parlais pas à un civil. Bon, il y a eu des moments incroyables, notamment au petit déjeuner. Ah ouais. Tu vois, on est là avec les scorpions. Bon, bah, tout le monde.
Les scorpions, le monde, les journalistes.
On amène du café, tout le monde boit sa tasse de café. Et Klaus Meiner dit I never coffee, bitter. Et là, on te dit ah, mais non, il n'y aura pas de deuxième café, les gars. Ici, il y a le plan communiste. Vous avez eu un café chacun.
Et ça sera tout. Et ça continue, c'est-à-dire que celui qui mène la tournée arrive, donne des bifetons pour avoir le deuxième café, il n'y en aura pas.
Non,
il y aura du coca.
Si vous voulez, pour 5 dollars, vous avez un coca.
T'as les Russes qui te donnent un coca.
Donnent à un prix d'or.
Ils te le vendent, 5 dollars en 88, ça représentait une petite fortune en Union soviétique. Et on se cognait à la réalité soviétique. Il y avait des gamins qui couraient après nous discrètement, tu vois, parce qu'on était avec des guides et qui disaient, vous voulez pas vendre votre blouson en anglais. Ils essayaient de nous parler dans un drôle de sabir, un peu anglais, un peu russe, un peu français, j'achète vos bottes. Mais je garde mes bottes, moi.
Vous êtes allé en Russie, vous aussi? Vous avez tourné avec nous?
Non, on n'est jamais allé en Russie, non. On a fait l'Amérique du Sud, oui. On a fait l'Europe. Mais d'avoir fait l'Amérique du Sud avec ce qu'on raconte dans nos textes, c'était très chaud parce que on était parti avec ce qu'ils avaient essayé de faire à l'époque, c'était les francopholies d'Amérique du Sud.
Ouais.
Et on était avec FFF, Sinclair et No One. Et on avait passé 10 jours, on avait joué à Buenos Aires et à Santiago du Chili. Et à Santiago du Chili, c'était un moment où Pinochet était encore chef des armées.
Wow.
Nous, quand on est arrivé là-bas, on avait l'impression d'être l'incarnation de la liberté d'expression. Donc, on nous a mis sur un piédestal simplement grâce à ça. Et donc, c'était très émouvant finalement d'entendre tous les journalistes, les gens qu'on a rencontrés et qui nous faisaient part, eux, de leur frustration, quoi, voilà, du serrage de vis qu'il y avait à l'époque, de pas pouvoir s'exprimer dans la musique et dire des choses.
Retour à Flashback Acid, donc ce récit, les concerts que vous avez vécus, par exemple en 73 avec David Bowie, les entretiens que vous avez menés avec lui, mais il y a d'autres choses aussi qui est très important, puisque c'est aussi un livre sur la drogue, c'est un livre sur les disparus, et j'aimerais qu'on ait juste quelques instants sur Marc Zermati. Vous voyez qui c'est, Kemar
Marc Zermati avait fondé Sky Dog, et c'était le un peu un des initiateurs du punk en France, quoi. Voilà, il faisait partie de cette bande de crypto-situationnistes avec Malcolm McLaren, avec Fred Vermorel, avec Castelbajac, ce qui était un peu dans la bande, de gens qui voyaient en 75 le rock était vraiment devenu une grosse machine et ils voulaient ramener une excitation sauvage. Et donc ils avaient cette idée de fonder un groupe avec des voyous qu'on aurait appelé les Young Lords ou les Sex Pistols. Après, et de mettre Nick, la journaliste du New Musical Express, appelé Nick Kent, qui était un très beau mec avec les cheveux très longs. Ouais, il se disait, on va mettre Nick Kent avec les Young Lords et ça va foutre un bordel pas possible. Puis, en fait, Malcolm McLaren s'est dit, finalement, les Sex Pistols, ça claque plus que les Young Lords. Nick Kent, beauf, je vais prendre plutôt le Johnny Rotten avec les dents toutes vertes qu'il avait vu dans sa boutique. Il le trouvait beaucoup plus bizarre et amenant quelque chose des plus jeune, surtout. Je crois que Nick avait, à l'époque, avait déjà 29 ans, alors que Rotten avait 20 ans, et c'était déjà deux générations différentes.
Tout à fait, ouais.
Nick, d'ailleurs, bon, voilà, alors Nick, Nick Kent, lui, c'est horrible, parce qu'il dit, mais mon groupe, les Sex Pistols, bah, étaient piqués par Johnny Rotten, ce qui est techniquement vrai, parce qu'il avait commencé à répéter avec Steve Jones et Paul Cook et Glenn Matlock, quoi. Bon, c'est un peu, lui, ça a été vraiment le grand déçu de l'histoire. Et puis, quand il a commencé à dire un peu trop fort que c'était lui qui aurait dû fronter les Sex Pistols, McLaren lui a envoyé Sid Vicious le corriger à la chaîne à vélo. Donc c'était des coups, périodes énormes. On rentrait dans un concert de Londres, des Clash, des Buzzcocks, des Générations X, des Sex Pistols, mais on ne savait pas comment on allait en ressortir. Il y avait vraiment un côté très, c'était très dangereux, quoi. Vous avez,
il y a eu ça en France aussi à un moment donné pendant les années 80 dans les concerts de heavy metal justement. Où c'était très très chaud pour aller.
J'ai vu.
Tu te rappelles de l'espace Ballard.
Bah, oh là là.
L'espace Ballard, il y avait, on avait deux choix pour sortir à l'espace Ballard. C'était le terrain vague et la rue sans issue. Et c'était une époque.
On se faisait dépouiller à l'époque.
Il y avait les skinheads qui se faisaient un malin plaisir de venir dépouiller et frapper du métalleux à la sortie des concerts. C'était hyper chaud. Et en plus de ça. De temps en temps, il pouvait y avoir aussi des Hells Angels à l'intérieur de la salle.
Comment tu parles ?
Qui marchaient comme ça et puis qui bousculaient exprès pour te chauffer. Aujourd'hui, c'est Woodstock, hein, les concerts.
Hein. Il y avait des luttes territoriales. Il y avait des promoteurs à moitié fous aussi. Hein. C'était vraiment une ambiance folle, une ambiance rock'n'roll.
Cette ambiance-là, on la retrouve dans ce livre Flashback à Sylphie. Maintenant, vous restez avec nous. On a rendez-vous avec Marion Guilbeault dans quelques instants.
Oui.
On va retrouver Kemar pour parler de votre album. Mais tout de suite, Philippe Manœuvre, vous avez un nouveau boulot. Vous êtes devenu, l'espace d'un instant, programmateur à France Inter. D'ailleurs, vous l'avez presque été à un moment donné. Vous avez choisi Clara Luciani dans la playlist de France Inter.
Oui.
Pour Respire. Un mot sur ce choix.
J'aime beaucoup Clara Luciani. Pour moi, c'est qui a fait partie de cette équipe de la Nouvelle Star qui cherchait une bonne chanteuse, une grande chanteuse. Eh ben, on a trouvé Clara. Enfin, je veux dire, ils ont trouvé Clara Luciani. C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais. Elle a la grâce, elle a une espèce de façon de tenir le micro, un allant, on a envie de la suivre, nous qui sommes au pays des gens avec juste les oreilles. Voilà, elle me frappe par cette tenue incroyable. C'est très très bien qu'on ait Clara Luciani en France. Hein.
Vous la lancez comme un journaliste que vous êtes ?
On va respirer, on va écouter Clara Luciani.
Sur France Inter. Yeah. Respire, Clara Luciani en Dancing Queen. Tout de suite, notre reine de la nuit à nous. Ce n'est pas Régine, c'est Marion Guilbeault.
Côté
club.
L'important, c'est le goût des gens, pas ce que sont les gens. Côté club.
Club. Sur France Inter.
Allez, je vous rappelle le principe de l'algorithme musical. Vous connaissez tous les deux. On part de ce que vous aimez pour ensuite vous proposer des nouveautés qui pourraient vous plaire. C'est ma vie, c'est ma mission. Et on commence avec le premier disque acheté pour vous, Philippe Manœuvre. C'est un tube de 1967, écrit par un groupe du nord de l'Angleterre. Et non, ce ne sont ni les Beatles ni les Stones, c'est ceux-là. This is the first time until today that you have run away.
Tout le monde chante.
Ah, oui,
ben, Baby Come Back. Baby Come Back par les Equals.
C'est
et
ça.
Moi, j'aimais les Equals parce que c'était le premier groupe mixte avec Sly and the Family Stone. Les Equals, il y avait deux blancs, deux noirs. Et c'était, moi je trouvais ça incroyable. Alors, oh, j'avais un black à la basse, un petit blanc genre skinhead à la batterie, mais qui jouait vraiment bien. Enfin, et puis c'était Eddie Grant, le chanteur qui va devenir le rival de Bob Marley dans les Antilles. Mais ça jouait. Et puis c'était une parodie des Stones, quoi. C'était un peu Satisfaction remis. Donc ça, c'était bricolé, c'était cheap, et j'adorais ça. C'était pour moi, c'était la pop de 68.
Pour vous aussi, Kemar, c'est une chanson de 1967, même si la version que vous avez achetée, elle date de 1982. Il s'agit de ce titre-là.
Boys Town Gang.
C'est ça. Can't Take My Eyes Off You. C'est une reprise disco, donc, hein, d'un titre de Frankie Valli and the Four Seasons. Hein. Alors, vous l'avez acheté suite à quoi?
C'est le film avec Robert De Niro?
C'est
ma mère qui nous avait demandé d'acheter 45 tours. Donc, avec ma sœur, on est allé l'acheter, on l'a écouté, on trouvait ça super bien. Et puis, oui, ça, on parlait de disco tout à l'heure et ça correspondait à une période où ça dansait disco de partout. Moi, j'avais des cousins que je regardais des fois en boîte l'été danser sur du disco. Et j'étais
j'étais fasciné en fait par cette musique. Alors déjà parce que rythmiquement et musicalement, je trouve que c'est vraiment une musique géniale, et que de voir tous ces gens en train de danser comme ça, je sais pas, je trouvais ça bouillonnant, je trouvais ça électrique. Il y avait quelque chose qui me fascinait. Et puis, même en écoutant tout le temps du rock, j'ai toujours aimé le disco en fait. Voilà. Ne serait-ce que parce que aussi symboliquement, le disco, c'est un peu la première musique qui arrive et où les noirs, les blancs, les jaunes, les verts, etc. Tout le monde va danser ensemble. Voilà, et ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné.
Alors premier disque acheté c'est celui-là, premier disque volé c'est Killers d'Iron Maiden. Ouais. De votre côté Philippe Manœuvre, aucun disque volé, bravo.
Non, parce que je crois au karma et je me dis si je vole des disques, on va me piquer les miens. Il y a un moment, faut faire très attention à ça. Je ne veux pas de disque volé chez moi.
Philippe Manœuvre c'est genre la coke à foison que ça.
Mais on ne prend pas des disques. Et en plus vous avez été cambriolé, alors c'était bien la peine.
Et on m'a piqué tous mes Rolling Stones. C'était les CD.
Bon. Partons du côté du live avec le premier concert auquel vous ayez assisté, Philippe Manœuvre, c'est Michel Polnareff à Reims, 1968. Ça devait être complètement dingue, non ?
Il a un tube énorme, c'est Dans la maison vide à l'époque. Ouais. Donc il arrive, il joue du piano debout, il est comme ça, il joue du piano et il y a un système, le piano se lève en même temps qu'il joue. Et surtout, à ce concert, j'entends de la basse électrique. Moi, jusque-là, depuis l'âge de 12 ans, ça fait 6 ans que je suis là, ça fait 3 ans que j'écoute du rock sur un Tepaz. Il n'y a pas de basse. Le Tepaz, c'est comme un manche-disque. C'est que de l'aigu, du suraigu et un peu de médium, si t'es content. Les basses, elles claquent comme si t'es une guitare rythmique, comme les Cramps, en fait. Ouais. Tout a le son des Cramps. Donc là, j'arrive à ce concert pour la première fois de ma vie. Et bébé, je dis, mais c'est génial la basse, quoi.
Vous deviez être en forme, en première ligne, j'imagine, à cette époque déjà.
Vous, que Mars, c'est Starmania en 1981 au Palais des Congrès.
Mais on a la même culture musicale que Mars, c'est quand dingue. Même fou.
Et parlons enfin idole absolue. Pour vous, Philippe Manœuvre, il y en a plein, mais notamment cet anglais électrique qui mettait le feu à sa guitare, au propre comme au figuré. Corrigez-moi Philippe Manœuvre, j'ai dit anglais,
c'est un guitariste américain avec deux anglais à la basse et à la batterie.
Qui s'est fait connaître en Angleterre.
Il s'est fait connaître grâce à Johnny Hallyday, qui l'a pris en première partie, parce que Jimi Hendrix était tellement bon que ni les Who, ni les Stones, personne ne le voulait en première partie, tout le monde était terrorisé, et donc il végétait un peu, et arrive ce gros inconscient de Johnny qui dit « Ah bah, tu sais pas quoi faire, viens faire ma première partie !» Tout le monde était là, genre « Mais non !» Et en fait, ça s'est hyper bien passé, et puis Johnny, ayant des grandes oreilles, il a entendu que le garçon avait un morceau qui s'appelait « Hey Joe », il lui a dit « Je peux faire la version française pendant que tu fais ta version américaine. » Mais c'est magnifique. Franchement, merci Johnny, parce que sinon Hendrix allait rester à végéter à Londres. On l'aurait renvoyé en Angleterre un moment, puisque personne ne voulait. Tout le monde se disait « Attends, si ce mec-là est en première partie, nous, on va pas oser y aller après. »
Bah, c'est comme à l'île de Wight, où à un moment donné, Pete Townshend dit « Non, moi, je joue pas après Hendrix. » C'est pas possible.
Pour vous, Kemar, ça va faire plaisir à Philippe Manœuvre, ça va faire plaisir à tout le monde. C'est aussi une légende du rock, votre icône, un moustachu que personne n'a jamais bousculé de sa vie, un bassiste qui jouait fort, mais alors très fort.
Très fort.
Motorhead, Ace of Spades, vous les avez déjà vus, Kemar, sur scène ?
Ouais, je les ai vus plusieurs fois, et puis on a fait 5 zéniths avec eux ensemble. Bon, la première fois.
Un échange avec Lemmy.
Ouais, dans notre bouquin de photos d'ailleurs, il y a une photo avec lui, il nous reçoit dans sa loge, il est fatigué à ce moment-là, mais c'est drôle, tu vois, on parlait tout à l'heure des Pistols, et puis il se marre quand il sait « Ah !» Ah, the name of the band is No One Is Innocent. I remember Ronnie Biggs. Et là, on se marre un peu parce qu'il nous parle un peu des Pistols, il nous parle un peu de Ronnie Biggs. Donc, il y a tout de suite un petit contact qui se fait. Et puis voilà, pour moi c'est une légende, moi qui ai toujours aimé le rock'n'roll, j'ai plongé dans Motorhead parce que pour moi Motorhead c'était le rock'n'roll mais avec les volumes à 10 et puis avec des albums mythiques avec Bomber, Overkill, Ace of Spades, voilà tous ces et moi je me rappelle que quand on est dans sa loge à ce moment-là, c'était le deuxième concert qu'on fait au Zénith avec eux. Et il y a un des deux guitaristes qui me fait « Allez, vas-y, dis-lui. » Et en fait, j'avais envie de lui dire « Lemmy, est-ce que je peux venir chanter Metropolis avec toi, s'il te plaît ?»
Wow, carrément.
Ouais, et je me suis débiné, j'ai pas osé tellement que, tu vois, on était devant cette espèce de, tu vois, de monstre du rock, quoi. Voilà, je me suis débiné, mais qu'est-ce que j'aurais voulu chanter ce morceau avec lui, quoi.
Alors, je récapitule de votre côté, Philippe Manœuvre, du rock, de la pop et encore du rock, on s'en doutait un petit peu. Votre plaisir coupable, c'est, paraît-il, d'écouter un petit peu de rap.
Ben, ça m'arrive, oui, j'écoute un peu des fois, allez. Je me dis, bon, je vais voir ce qu'ils fabriquent là-bas, tu vois.
De
bon, pour
côté.
L'instant, je n'ai pas inquiet. Hein.
De votre côté, Kemar, du disco, de la variété québécoise, du heavy rock et en plaisir coupable, vous replongez grave avec ce titre.
Fabuleux,
à la Diane Fell, si j'étais un homme, vous assumez.
Alors, j'assume complètement. Voilà. On nous le fait souvent, le plaisir coupable.
Oui.
Voilà. Et la première fois, je me rappelle dans le groupe, quand je sors Diane Fell, si j'étais un homme, évidemment, ils se foutent tous de ma gueule, évidemment. Voilà, je prends une salve. Et puis, on part dans le bus sur une date. Et tout d'un coup, notre régisseur met le morceau devant, et puis ils se mettent tous quand même à chanter le morceau.
Bien
sûr. Et là, derrière, je leur fais alors. Voilà, donc en fait, c'est. Moi, je trouve que c'est un morceau de soul, quoi. Mais c'est un morceau de soul, mais tellement, tellement génial, quoi, je trouve. Voilà, c'est.
Alors, du coup, vous ne m'avez pas rendu la tâche facile. Hein,
l'algo
musical de Côté Club a mouliné. Et puis finalement, il a penché pour une proposition musclée. Celle de Guadal Terras, un quatuor rennais, fou de culture méso-américaine. De champis qui donnent soif de mescal, mais aussi de curieux de tous les courants musicaux qui font du boucan. Un chili con carnage, comme ils disent, avec un chant incantatoire, un rouleau compresseur basse-batterie, des Larsen qui traversent le rock aussi psyché que plombé. Ils sont actuellement sur leur deuxième album et leur passage aux dernières transmusicales a fait la fortune des ORL rennais. C'est signé Guadal Terras.
Pas mal du tout. Hein.
Vous savez que vous êtes la dernière radio au monde à pouvoir passer ça. C'est
bah
génial.
Oui. Et on en profite
de l'instant. Ouais, moi, j'ai adoré. Un groupe nouveau avec un joli son. Vous savez, on peut dire que ça sonne bien.
Ouais, assez stoudjian.
Ouais, des gars un peu concernés. Ouais. Ils font pas ça pour s'amuser. On sent que. Ouais, vraiment, moi, ça me plaît bien.
Bravo, alors, Marion.
Alors, le problème aujourd'hui, c'est ça, quoi, pour le rock, c'est. Je parle au type qui fait Gibert, Philippe Marie, qui fait tous les magasins Gibert de disques, il me dit il y a beaucoup de jeunes groupes, mais ils ont chacun 4 ou 5 fans. Il y a des groupes comme les Sore Losers, les Viagra Boys, il dit j'en ai 5 de celui-là, 6 de celui-là. Il n'y a plus cette époque où il y avait un nouveau groupe qui s'appelait Dr. Feelgood, qui avait 800 gamins qui venaient le samedi, ils voulaient le Dr. Feelgood, et après, Dr. Feelgood au Bataclan, puis à l'Olympia, puis au Zénith, puis à Bercy, si possible. Tu vois, c'est bon. Là, c'est aujourd'hui. On a perdu les Grégor. On est morcelé. On est tous dans nos petits coins avec nos petites idées. Mais ça, c'était vraiment. Comment il s'appelle?
Guadalterras.
Guadalterras.
Donc ouais, plébiscité par vous deux.
Ouais, ouais, très bon.
Très bien. Encore une fois, bravo Marion, ça a marché.
Côté club.
Plus de solo de guitare et moins de blabla.
Sur France Inter.
Une déclaration signée Mirwais, elle fait toujours son effet. 30 ans de carrière, 10e album pour No One is Innocent avec Enemy, 11 titres qui identifient ses ennemis politiques, médias. On va y revenir avec vous, Kemar Koulbenkian, qui en est le chanteur. Alors, je me souviens qu'en 2006, vous aviez travaillé et conçu votre album Gasoline en vue des présidentielles de 2007. Vous évoquiez Nicolas Sarkozy dans L'amour de la haine. Salut l'artiste s'adressait à Jacques Chirac. Enemy sort là en vue des présidentielles.
Non, pas forcément. On va pas toujours refaire. Non, c'est juste des histoires de période, de date, de timing. Voilà, nous, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu cette frustration qu'ont eu plein de musiciens, plein de chanteurs de devoir annuler des tournées. Parce que
non,
nous,
votre tournée s'est arrêtée au moment où a commencé la pandémie.
Exactement, ouais. Donc nous, on avait déjà commencé un peu à travailler cet album. Et puis en fait, on n'a pas eu du tout de frustration pendant cette période. Et puis moi, écrire pendant une période de confinement, ça a été le rêve total, quoi. Ouais.
Dans un entretien, vous disiez « Nous ne sommes pas le supermarché de l'engagement ». J'adore l'expression, c'est plutôt bien vu. Donc, vous n'allez pas citer dans cet album toutes les causes. Mais non. Quelles sont celles qui, pour vous, sont d'actualité en ce moment, entre le moment d'écriture de l'album, puisque aujourd'hui on est dans les présidentielles justement, et aujourd'hui, qu'est-ce qui...
Bah moi je dirais c'est un titre qu'on a écrit qui s'appelle « Les hyènes de l'info ouais », et que je pense qui est assez révélateur de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des gars qui sortent comme Zemmour, qui sont les fers de lance d'une émission,
d'une radio aujourd'hui, voilà, d'une émission de télévision, d'une chaîne,
et qui travaillent leur image comme ça, et qui on donne la parole pendant des heures, et bah voilà ce que ça devient, quoi. J'ai entendu une phrase de Ruquier l'autre fois qui disait je regrette finalement de lui avoir donné autant de liberté d'expression à Zemmour et d'avoir diffusé toutes ses idées. C'est des choses à réfléchir, quoi, quand même. Je pense que c'est...
Personne ne pouvait prévoir. Moi, ce qui me terrorise, c'est que là, en ce moment, t'as plein de gens qui disent « Mais Zemmour, ne vous inquiétez pas, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. » Car Donald Trump, c'est quoi? Les Français ne le savent pas.
Bien sûr.
Mais c'est une star de la télévision. Exactement. C'est quelqu'un qui présentait depuis 15 ans The Apprentice, où il expliquait aux gens comment faire des milliards, etc. Et donc, on est dans le même cas de figure. La télévision a fabriqué un golem là qui se balade et qui maintenant dit bah maintenant ça va être moi le chef de tout, et donc espérons qu'on est moins bêtes que les Américains quand même.
Il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui passe mal chez nous parce qu'on se dit que ce gars est tout le temps à la télé, tout le monde parle de lui, etc. C'est quand même voilà, un candidat à l'élection présidentielle et qui est au tribunal pour injure raciale, pour machin, etc. C'est quand même... Être candidat à l'élection présidentielle, c'est un truc quand même d'essayer de fédérer une population, d'être un exemple un petit peu. Et là, en fait, ça passe crème, quoi. Voilà. Et ça, c'est dangereux, quoi. Voilà, on trouve ça très dangereux.
Dans cet album, donc, les hyènes de l'info, mais aussi les forces de l'ordre. Non, plutôt, vous dénoncez les forces du désordre. Un mot sur ce titre qu'on va écouter justement, le moment où vous l'avez conçu. Kemar.
Ouais, bien sûr, on l'a conçu pendant les périodes George Floyd, pendant les bavures aussi policières qu'il y a pu avoir. Alors, on veut pas non plus être attiré sur l'ambulance et tiré sur tous les flics. Simplement, on évoque le fait que la justice n'aide pas les flics. Et en fait, au final, c'est eux qui se retrouvent en première ligne et qui sont juste les victimes d'un système qui fonctionne pas bien. Et voilà, et ça donne souvent des affaires Benalla, d'autres choses comme ça. Et c'est ça qu'on évoque.
Dans les forces du désordre, sur France Inter.
Les forces du désordre, extrait de Enemy, dixième album pour No One Is Innocent. Vous étiez comme un fou, Philippe Manœuvre.
Mais
comme un dingue.
Bah oui. Bien sûr.
En train de faire la batterie, en train de faire la guitare.
Bah oui, bah c'est
quel mime.
Non, mais je trouve ça magnifique. Ils y arrivent bien, voilà. Parce que le métal, c'est enfin, bon, une musique, c'est un sport de haut niveau. Ouais. Hein,
maintenu depuis 1994, hein, date du premier album, bien sûr.
Non, mais il y a vraiment. Ça demande des musiciens qui sont là à 111%. Hein, c'est pas des amateurs, là, c'est vraiment...
Et comment ça se passe en studio? Parce que l'énergie qu'on a là, c'est vraiment une énergie live. En studio, ça se passe comment avec, bah, avec les autres? Je pense
c'est un peu le boulot du producteur. Ouais, c'est un peu le boulot du producteur, mais c'est déjà avant d'enregistrer vraiment les titres, on les teste entre nous, quoi. Et à un moment donné, si ça nous fait bouger la tête, si notre corps se met à bouger, c'est que, voilà, on tient le morceau.
Alors, c'est intéressant parce que vous étiez en tournée, justement, juste avant la pandémie. La tournée s'est arrêtée avec la pandémie. Donc, vous avez vu et rencontré une partie de la France. Qu'est-ce que cet album doit à ce que vous avez entendu, à ce que vous avez vu et croisé pendant ce moment-là? Kemar?
Je sais pas si, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas le supermarché de l'engagement.
Tout à fait.
On entend beaucoup de choses parce que dès que nos fans, entendent qu'on va sortir un album, évidemment, il y a énormément de thèmes qui sortent sur les réseaux. On nous dit No One, il faut parler de ci, il faut parler de ça, il faut parler de ci, il faut parler de ça. Nous, on leur dit juste, c'est la musique qui nous dicte le thème des morceaux. Et moi, c'est ce que je dis souvent, tout le temps d'ailleurs, à chaque fois qu'on est en train de composer avec mes potes, c'est que la musique doit d'abord raconter une histoire. La musique qu'on a écoutée là, de Force du Désordre, quand Shanka, le guitariste soliste, est arrivé avec, il y avait quelque chose, il y a une intro longue, il y a quelque chose de... En fait, on a construit ce morceau comme une manif se construit, voilà. Et en fait, c'est les images de la musique qui, à un moment donné, alors évidemment, moi, dans mes tiroirs, j'ai des thèmes, mais c'est avant tout, c'est la musique qui drive les textes.
Alors, voilà. Pour ceux qui se demandent qui vous êtes encore aujourd'hui, vous répondez sur ce titre, nous sommes... Un peu plus loin, on entendra Combat Rock, sale et sauvage, et refuser de rentrer dans la cage. Combat Rock, c'est la graine de notre ADN, à coups de décibels pour briser la haine. Elle vient d'où cette colère, la vôtre, Kemar? Est-ce qu'elle est en lien avec vos origines arméniennes?
Ouais, j'ai compris, je pense, un peu plus tard. Enfin, je vous dis pas tout, quoi. Enfin, quand vous dites que je suis d'origine arménienne, en fait, moi, je suis juif arménien. Donc, à un moment donné, j'ai compris... Quand tout le monde me dans la famille des deux côtés, tout le monde me racontait des histoires. À un moment donné, j'ai compris pourquoi j'ai pris une gratte et puis j'ai décidé d'écrire des chansons ou de prendre un micro et puis de bouger sur scène avec mon micro et d'utiliser la musique pour dire des choses. Voilà.
Musicalement, comment on travaille un dixième album? Je vous pose cette question parce que je voudrais qu'on écoute ça. Sourire quand j'ai lancé ce morceau Armistice.
un instrumental.
Ouais, ouais, ouais. C'est le génie de notre guitariste soliste Shanka. Ça sort de son esprit, ça sort de ses doigts. Depuis un moment, il utilise la viole de gambe. Il s'est trouvé cet instrument pour toujours avancer en fait en musique. Voilà, et c'est ça qui est chouette. Et ce morceau, il nous avait fait écouter une bride comme ça. Et en fait, je pense que on avait envie de faire un peu notre. Alors je me retourne vers Philippe parce que lui doit connaître. On avait envie de faire notre planète caravane de Black Sabbath.
Ah, voilà. Ouais, d'accord.
Alors il faut expliquer.
Non, mais c'est un morceau mythique, quoi. Voilà, une espèce de Philippe grand Manœuvre. Morceau.
Tu vois, tu parlais de on écoutait des morceaux planants là que t'as écouté tout à l'heure, et Planète Caravane fait partie de ces genres de morceaux très flaudiens
on se dit pourquoi. En même temps, c'est très marrant parce qu'il y avait Pink Floyd qui avançait vers Black Sabbath, il y avait Black Sabbath qui faisait des trucs un peu planants, donc pourquoi pas. Oui, c'est psychédélique en fait.
L'autre fois, je regardais un reportage sur la création de Paranoid de Black Sabbath, et à un moment donné il y a Geezer Butler, le bassiste, qui explique pourquoi ils ont fait ce titre, et il disait, et en fait nous on a ressenti la même chose, c'est-à-dire que dans un morceau où c'est la guerre tout le temps, il y a un moment donné ils avaient envie d'une pause, et voilà, et nous on a eu la même sensation.
Et c'est Armistice.
Exactement.
Ouais, c'est parfait. Ça sera donc le mot de la fin. On va se quitter. Merci à vous. Côté club, c'est fini. Merci No One is Innocent Enemy. C'est le 10e album avec une tournée, la tournée des gros 4 qui commence le 15 janvier à Strasbourg, qui reprend le 28 au Zénith de Lille, le 4 février au Zénith de Dijon, à la Halle Tony Garnier à Lyon le 5 février, Quimper le 11, Caen le 12, Toulouse le 18, je suis déjà crevé, Montpellier le 19.
Vous n'allez pas passer l'année.
Mais attendez, en même temps, il y a la tournée de No One tout seul, donc qui commencera le 25 février à 9h, et puis un livre de photos auto-édité. Nous sommes donc aux éditions, on va dire, No One is Innocent. Merci Philippe Manœuvre.
Merci Laurent.
Toujours un plaisir.
Merci
Flashback
Mario.
Acide, apparu aux éditions Robert Laffont, et je signale que vous serez le programmateur, le maître de cérémonie du Rockin' Mile.
Rockin' Mile.
J'aime bien le dire à l'anglaise.
Le Rockin' Mile.
Le Rockin' Mile. Au Stade de France, en mai prochain, avec Mathieu.
Le 14 mai.
Parfait, c'est tout.
Kémar, si tu veux venir.
Avec Mathieu Chédier.
Ah ouais, c'est génial. Cool. Je t'invite au plaisir. Stade de France avec nous. Là.
Je connais.
Ça va être assez incroyable.
Côté club, c'est l'équipe du soir qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation. La technique ce soir, Julien Michel, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rosic et Marc Gauthier. Ça, c'est pour la programmation. Et enfin, Valentine Chedebois en playlist. Allez, côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.